Bienvenue à tous, vous suivez en direct les programmes de Studio Kalangou, il est 18h, tout de suite le journal en français. Bonsoir au micro, Diallo Mariama Kenda. Au sommaire, retour sur les attaques kamikazes du lundi dernier dans la ville de Difa qui ont fait 10 morts et 39 blessés. Nous verrons l'ambiance qui y règne 48 heures après et vous entendrez l'analyse d'un spécialiste en sécurité dans cette édition. Le président de la République du Niger était mardi à Bruxelles dans le cadre des journées européennes de développement, visite au cours de laquelle Issoufou Mamadou s'est prononcé sur la situation de la femme et des filles au Niger, détail dans ce journal. Ce soir, dans la partie magazine du journal, nous irons à la découverte d'un jeune entrepreneur nigérien âgé de 22 ans, chef de l'entreprise dénommée Otimbi. Otimbi se base sur l'intelligence artificielle et offre différents services numériques tels que la création de sites web, d'applications, etc. Merci, messieurs, dames, de rester en notre compagnie. Les deux membres de l'UJND, Union des Jeunes Nigériens pour le Développement, Salisu Ibrahim et Issoufou Bra, arrêtés à Zinder pour avoir demandé au président de la République de briguer un troisième mandat, ont comparu ce matin en audience publique. Le procureur de la République a requis 5 ans d'emprisonnement, dont 3 fermes et 100 000 francs d'amende pour chacun des deux. Le libéré est pour le jeudi 14 juin prochain. Les activités ont repris lentement à Difa 48 heures après les explosions des kamikazes qui ont fait plusieurs morts et blessés lundi dernier. Le mardi, jour de marché hebdomadaire, celui-ci est resté fermé ainsi que l'autogare, certains projets et institutions bancaires. Lawan Boukar pour le reportage.
Après l'acte des kamikazes qui se sont fait exploser lundi dernier à Difa faisant 10 morts et plusieurs blessés, toutes les activités sont restées au ralenti. Le marché hebdomadaire de Difa qui se tient chaque mardi est resté fermé, de même que l'autogare et certaines institutions bancaires, projets et ONG de la ville. Et depuis hier mercredi, les activités ont repris lentement. Aujourd'hui, toute la population vague à ses occupations, même si on sent un revirement de cette crise qui mine la région depuis 4 ans aujourd'hui. Il faut noter que des dispositions sécuritaires importantes sont prises pour ne plus avoir ce genre de forfait dans la ville de Difa. La plupart des personnes s'interrogent pour la suite de leur vécu quotidien, qui sera certainement difficile avec le renforcement du couvre-feu. Et d'ailleurs, hier aux environs de 20h30, un jeune garçon de 14 ans a été victime d'un tir par un FDS. L'enfant se trouve présentement au CHR de Difa, où il reçoit des soins intensifs.
10 morts, dont 3 kamikazes et 39 blessés, dont 8 grièvement. C'est le bilan de la dernière attaque kamikaze dans la ville de Difa lundi dernier. Pour Séni Moumouni, spécialiste en sécurité, cette attaque n'est pas une surprise. Écoutons-le au micro de Habibou Garba.
C'est vraiment de la ruse. Et la ruse fait partie justement de les stratégies de ces groupes terroristes. Ce qu'on a vu il y a quelques jours à Difa, pour nous les spécialistes, n'était pas surprenant. Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, Boko Haram est affaibli compte tenu des divisions internes. C'est pas affaibli parce que de l'autre côté, il y a une force qui est là, qui est en train de les mater. Non, Boko Haram est affaibli à cause de ces divisions internes, mais aussi pour des, comme on le dit souvent, des replis tactiques. Une façon de se réorganiser. Ils réorganisent et ils reviennent. Pendant ce temps-là, de l'autre côté, on baisse la garde. On pense que c'est fini. On dit que, bon, Boko Haram est vaincu. Donc, il suffit d'une attaque pour que la psychose s'installe et pour que les gens remettent en cause tous les efforts engagés pour le retour de la paix, etc., etc.
Propos recueillis par Habibou Garba. À Bamako, samedi dernier, l'opposition politique malienne et certaines organisations de la société civile ont bravé une interdiction de marché de l'autorité. Une manifestation réprimée par les forces de l'ordre avec des journalistes violentés. Gungu Momon Dantani, agent au téléphone ce matin, Issa Fakaba Sissoko, rédacteur en chef du studio Tamani à Bamako, au Mali, qui explique.
Au total, il y a eu près d'une cinquantaine de blessés. Heureusement, il n'y a pas eu de mort. Des responsables de l'opposition et d'organisations de la société civile ont été violentés, ont été gazés par le service des maintiens de l'ordre. Et donc, c'est dans cette mouvance-là que des journalistes qui n'étaient pas des manifestants, qui étaient là pour couvrir comme tout journaliste normal qui est à l'affût de l'information, et donc ont été des victimes collatéraux de cette répression. Je peux dire que les conséquences de la violence peuvent varier d'un journaliste à un autre, mais je dis de fait tous les journalistes qui ont couvert cette manifestation, qui étaient sur le site de la marche, ont été violentés d'une manière ou d'une autre. Dont le reporter de Studio Tamani, par exemple, qui n'a pas été blessé heureusement, mais qui a dû souffrir après avoir respiré les gaz lacrymogènes qui ont été jetés sur les manifestants.
Le président de la République du Niger, Issoufou Mahamadou, a été invité à la cérémonie d'ouverture des Journées européennes de développement à Bruxelles, au Royaume de Belgique, le 5 juin. Dans son intervention, il a parlé de la situation de la femme et des filles au Niger. Les détails avec Tarnan Foudé Ahmed.
Dans son discours axé sur la situation de la femme au Niger, Issoufou Mahamadou a précisé que cette catégorie de la population représente plus de 50% de la population et fait face aux défis de l'égalité des genres, de l'autonomisation mais aussi de son implication dans le processus du développement durable. En matière d'accès à l'éducation et à l'alphabétisation, selon le président du Niger, les inégalités persistent. Il évoque un écart de 12 points entre le taux brut de scolarisation des garçons et celui des filles en 2015-2016. En ce qui concerne la santé, notamment celle de la reproduction, il ressort dans son discours qu'au Niger, l'entrée en union chez les hommes reste extrêmement précoce par rapport à leurs collègues hommes du même groupe d'âge et cela engendre des grossesses précoces et indices synthétiques de fécondité les plus élevés au monde. S'agissant de la participation des femmes dans le secteur économique, le président évoque à ce niveau une inégalité répartie des rôles et des responsabilités dans la division du travail.
Consommées tous les jours durant le ramadan, les denrées de première nécessité connaissent une hausse des prix. Des débats sont en cours sur le sujet à Agadez. Notre correspondant Anissé Karim s'est intéressé à ce sujet. Voici son reportage.
Comparativement à l'année passée, les prix des produits de première nécessité ont été revus en baisse, selon Ambali Oumarou, président des commerçants d'Agadez.
En ce qui concerne les produits alimentaires, il n'y a pas eu de hausse de prix. Ils ont plutôt connu une baisse. En exemple, les macaronis et les autres produits en provenance de l'Algérie. L'année passée, à la même période, le carton de macaronis coûtait 5000 francs et cette année, il coûte 4500. Et cela partout où vous allez. Du côté du riz, il n'y a pas eu d'augmentation de prix. Le prix des légumes qui était en hausse l'année passée, eh bien cette année, le prix n'a pas connu de hausse. Il suffit de se référer au cas de la pastèque. On n'a jamais connu une chute de son prix comme cette année.
Le président de l'association pour la défense des consommateurs, ADD Sewadata, Mohamed Aboubakar n'est pas du même avis que le président des commerçants.
Les gens ont constaté une hausse des prix sur les produits de première nécessité parce qu'il y a eu des enquêtes qui ont été menées sur place et les gens ont confirmé. Quand on avait approché ces commerçants-là, ils ont dit que ah, ce n'était pas à leur niveau, mais c'était au niveau de la souche. Mais en réalité, au niveau de la souche, quand on a enquêté, on a vu que ce n'était pas du tout ça. Vraiment, il y a eu cette hausse des prix et c'était remarqué par le consommateur lui-même.
Un appel fut lancé par l'Association pour la défense des consommateurs à l'endroit des commerçants pour qu'ils soient sociables vis-à-vis des clients en ces temps de soudure. Anissé Karim, Agadez pour le studio Kalangou.
Le syndicat unique de santé et de l'action sociale SUSA, section maternité Issaka Gazoubi de Niamey a levé son mot d'ordre de grève prévu aujourd'hui jeudi 7 et vendredi 8 juin 2018 suite au paiement des salaires du mois de mai 2018 du personnel de la maternité. L'annonce a été faite par le comité directeur du 10 syndicat. Selon le secrétaire général de la section SUSA de la maternité Gazoubi, tous les agents membres du syndicat se sont rendus sur leur lieu de travail. Tirage au sort ce matin au siège de la Fédération nigérienne de football, Fenifoot de Niamey, des huitièmes de finale de la Coupe nationale édition 2017-2018. Les 16 clubs qualifiés, dont 10 de Niamey et 6 de l'intérieur du pays, s'affronteront du dimanche 10 juin au mercredi 13 juin 2018 sur les stades de Niamey et des localités de l'intérieur du pays. La grande finale de cette Coupe nationale est prévue à Niamey le 3 août prochain.
Studio Kalangu.
Les programmes de Studio Kalangu
à Niamey
sur la radio alternative
99.4 FM.
À Zender
sur la radio Choukra FM
105.5 FM.
À Dosso
sur la radio Phara
92 FM.
À Tawa
sur la radio Tambara
107 FM.
À Arlit
sur la radio Hippocane
95.1 FM.
Studio Kalangu.
La partie magazine de ce journal. Nigérien âgé de 22 ans, il est chef de l'entreprise dénommée Otimbi. Otimbi se base sur l'intelligence artificielle et offre différents services numériques tels que la création de sites web, d'applications, etc. Boulama Kandine, c'est le nom de ce jeune entrepreneur encore étudiant aux États-Unis. Il nous en dit un peu plus sur cette initiative. Il est au micro d'Alassane Kouzi Mahamadou.
On fournit des services aux entreprises ou aux individus qui ont besoin de sites internet, applications ou autre chose, mais on se focalise principalement sur l'intelligence artificielle. Donc supposons que vous avez besoin d'un système pour gérer vos employés, nous on va vous faire ça, mais notre touche spéciale c'est qu'on va ajouter de l'intelligence artificielle pour que la gestion soit plus facile. C'est-à-dire qu'on va mettre l'ordinateur face à différentes données, à partir de ces données-là, il va apprendre un contexte et maintenant l'ordinateur peut utiliser ce contexte-là pour effectuer certaines tâches. Par exemple, on a une plateforme otimbi.com qui permet de catégoriser les informations africaines. Par exemple, on peut avoir un titre ou bien un contenu à apprendre à un ordinateur. Le robot va dire « Ok, ça parle du Niger ». Plus précisément par rapport au Niger, ça parle de l'économie nigérienne. Si ça trouve des hommes politiques ou bien des personnes clés, ça va aussi catégoriser ça dans ce contexte-là, contraire ou bien opposé.
Alors, Otimbi Labs, d'où est-il parti ?
Otimbi Labs est parti de ma propre initiative. En fin de troisième, j'ai commencé à apprendre les différents langages de programmation, PHP et compagnie. Et j'avais commencé à fournir mes services sur Internet. Les entreprises pouvaient avoir besoin de sites Internet ou d'applications. Donc moi, je me proposais pour leur offrir ces services-là. Et j'ai fait ça jusqu'à la fin du lycée. Et je suis parti étudier aux États-Unis. Une fois que je suis revenu, je me suis dit que ça serait bien d'étendre mon activité. Donc, de cette initiative, j'ai créé Otimbi Labs, où j'ai embauché quelques personnes à Niamey. Je pense que j'avais commencé avec deux employés à Niamey. On a commencé à travailler ensemble. Mais après, plus l'activité est en train de grandir, on a dit que ça serait bien d'engager des freelances à l'étranger. Donc, en ce moment, on a des freelances qui travaillent en Algérie, en Inde et en Angleterre. Puis, on a un bureau qui est localisé aux États-Unis, où il y a des personnes qui travaillent en full-time. Et là-bas, c'est l'équipe principale de développeurs qui est là-bas. Au Niger, vers 2017, on avait décidé de fermer, vu qu'on n'avait pas vraiment besoin d'opérations au Niger. Et surtout, le fait qu'on ait une entreprise Internet et la connexion Internet au Niger, elle est assez chère. Et en choisissant d'être au Niger, en ce moment-là, on pouvait pas être compétitif et étendre nos activités à l'international. Donc, on a décidé de fermer les bureaux au Niger et travailler totalement à partir des États-Unis et avec les freelances à l'étranger. Il y a des connexions qui sont offertes qui sont très bien, mais ne permettent pas de travailler en équipe et surtout sur des applications assez lourdes. Mais comme je l'ai dit, on fait de l'intelligence artificielle. Ce sont des systèmes qui requièrent beaucoup, beaucoup de bandes passantes. On ne peut pas être rapide. Comme on dit, le temps, c'est de l'argent. Et si on ne peut pas être rapide, ça veut dire qu'on va perdre en compétitivité par rapport aux gens qui sont peut-être au Niger, au Sénégal ou même carrément dans d'autres pays.
C'est la fin de ce journal. Pour ma part, je vous dis au revoir. Je vous laisse en compagnie de Mokhtar Amadou. Il vous parle de l'étiage du fleuve Niger, impact sur l'environnement, la production d'eau potable, le programme Kandaji et les solutions envisagées.
Studio Kalangu.
Les programmes du Studio Kalangu
à Niamey
sur la radio Amfani 100 FM et sur la radio alternative 99.4 FM
à Agadez,
sur la radio Nomade FM 101.9 FM
à Arlit,
sur la radio Ikokan 95.1 FM
à Difa,
sur la radio Amfani 100 FM
à Dosso,
sur la radio Phara 92 FM
à Tchirozirine,
sur la radio Azuru 95.1 FM
à Pilengi,
sur la radio Mourir Talaka 95.1 FM
à Tilaberi,
sur la radio Tebonsi 97.5 FM
à Maradi,
sur la radio Garkwa 107 FM
à Tawa,
sur la radio Tambara 107 FM
à Zende,
sur la radio Choukra 105.5 FM.
Studio Kalangu.